Premier élément que je voulais mentionner, il ne faut pas nier la pertinence et l'importance des études qui sont autour de ce sujet des messagers de l'invisible. Si on regarde, on reprend donc brièvement l'histoire, je vous le disais tout à l'heure, il y a toujours eu une angéologie, hein, c'est-à-dire une science où on étudie les anges, où on étudie ces messagers. Rappelons-nous que le mot « ange » en grec, c'est « angelos », et « angelos », ça signifie « messager ». Mais alors là, pas au sens de l'ange que l'on a comme figure ou comme archétype dans notre qu'on a reçu dans notre éducation, par exemple religieuse. Parce que si vous prenez les textes du Nouveau Testament, tout à coup, Pierre est emprisonné, Saint-Pierre, on nous raconte qu'il est emprisonné, et tout à coup, il frappe chez des disciples parce qu'il y a quelque chose à aller leur dire. Alors, il quitte son corps physique, il se déplace dans son corps sidéral, dans son corps énergétique, et s'en va rencontrer des disciples à qui il faut absolument qu'il transmette quelque chose. Et on nous raconte que les disciples, en ouvrant la porte, disent « Ah, c'est l'ange de Pierre ». Alors, tout de suite, ça nous met la puce à l'oreille et on se dit « Ah, le mot « ange » dans la Bible ne signifie pas nécessairement une entité, si on veut, céleste ou une entité extraterrestre ou un ange dans le sens religieux du terme, mais ça veut dire un messager. » Alors, il considérait donc le double de Pierre comme étant son messager, comme étant celui qui venait porter, finalement, la missive que Pierre leur réservait. Donc, le mot « angelos » en grec signifie uniquement « messager ». Donc, première information aussi importante, parce que je vais essayer de vous faire une classification pour démêler le sujet des anges. Eh bien, premier élément, donc, ce sont des messagers, si vous voulez. Ces messagers existent, évidemment, chez les anciennes religions. Pensez au judaïsme. Alors là, si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir des anges partout. Et des anges très étonnants, parfois. Hein? Des anges qui vont devenir très physiques, puisque certaines personnes vont combattre avec un ange dans l'Ancien Testament. Des anges qui vont tellement être physiques que lorsqu'ils vont aller à Sodome, hein, cette fameuse ville de perdition, et qu'ils vont aller rencontrer un des leurs, c'est-à-dire un être de lumière, un porteur de lumière, eh bien, nous raconte l'Ancien Testament, lorsqu'ils arrivent chez cette personne, les gens de la ville, qui sont des sodomites, vont vouloir avoir l'ange pour avoir avec lui des pratiques sexuelles. Alors, c'est assez étonnant que la Bible nous décrive ça comme ça. Donc, l'ange prend se corporifie dans l'Ancien Testament. Alors, il y a des anges qui vont marcher avec Abraham, ainsi de suite. Alors, ils vont se manifester parfois très matériellement et ils vont avoir des comportements qui seront parfois étonnants. Donc, il y a beaucoup de choses à voir autour des anges pour essayer de comprendre véritablement ce qu'ils sont. Mais dans l'Ancien Testament, c'est évident, ils sont présents tout au long de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est même pas la peine d'en parler, ils sont à tous les moments importants, depuis la naissance du Nazaréen jusqu'à la crucifixion, jusqu'à la résurrection, puisqu'on nous dit deux anges étaient au tombeau pour dire aux femmes, bien, écoutez, ne le cherchez pas au tombeau, il est ressuscité, allez en Galilée, ainsi de suite. Donc, ils vont être présents partout. Il y aura des bons anges, ceux qui supporteront le Nazaréen, comme au désert, durant son expérience de 40 jours dans le désert. Il y aura des mauvais anges, ceux qui viendront le tenter, justement, au désert. Et il y aura une espèce de combat entre les mauvais anges et les bons anges. Donc, dans le christianisme, il y a une présence des anges qui est indéniable également et qui va devenir très importante à l'intérieur de l'institution, c'est-à-dire à l'intérieur de la religion, puisque les églises bâtiront des rituels où l'intervention de l'ange est primordiale. Principalement hérité d'un homme qui était le spécialiste de l'angéologie et qui a codifié l'angéologie telle qu'on la connaît, nous, dans notre tradition au Québec, et c'est celui qu'on appelle Denis l'Aéropagite. Alors, Denis l'Aéropagite, quelques mots biographiques sur cet homme. C'était un disciple direct de Saint-Paul, c'était un membre de l'Aéropage, c'est un homme très instruit, et à un moment donné, Saint-Paul est allé faire un discours à l'Aéropage, et Denis a suivi ses traces et a écrit un livre très important qui s'appelle « La hiérarchie céleste », où il explique qu'il y a des anges, hein, où il y a des entités, des messagers, des angelos, des messagers de l'invisible, qui sont catégorisés en différents degrés. C'est-à-dire qu'il y a différents degrés d'intelligence, différents degrés d'ange, et que ça forme une hiérarchie. Et voilà le mot-clé, hein, de toute l'interprétation autour du phénomène des anges, la hiérarchie. C'est-à-dire que dans l'univers, les degrés de conscience sont hiérarchisés, du plus élevé, qui va jusqu'à l'incréé, jusqu'au degré le plus bas, qui est le minéral, dans une conscience de trans profonde, dans une inconscience, si on veut, de trans profonde. Alors, il y a toute la gradation. Et selon les enseignements de la tradition Rose-Croix, de la tradition de Denis l'Aéropagite, eh bien, il y aurait 10 degrés principaux hein, de cette hiérarchie qui, pour nous, sont intéressants à partir de l'homme. C'est-à-dire que l'homme fera partie, dans les siècles et dans les millénaires qui viendront, de la hiérarchie. Il deviendra un jour un être sacré, il deviendra un jour un dieu. Voilà la grande révélation qui est à la base de l'ésotérisme occidental. Et cette révélation, elle n'est pas récente. Déjà, en Égypte, on disait une chose très importante, et ça, c'est un philosophe grec qui nous rapporte ça. Il semblerait qu'un penseur grec, qui s'appelait Solon, a un jour rencontré un initiateur égyptien, qui lui avait dit comme ça en secret que les dieux avaient un jour été des hommes. Évidemment, cette phrase a fait impression, on s'en doute bien, puisque on a fait la correspondance. On s'est dit, les dieux ont un jour été des hommes. Ça veut donc dire qu'un jour, les hommes seront des dieux. Et c'est à partir de là que cet espoir prométhéen au départ, et finalement pleinement réalisé dans notre siècle, cet espoir de devenir Dieu était maintenant une chose qui faisait partie des archétypes mentaux de l'homme. Un jour devenir Dieu, c'est-à-dire un jour s'élever dans la hiérarchie et faire partie de ses intelligences. Alors voilà le schéma dans lequel je voulais intégrer ces hiérarchies. Maintenant, je vais vous les présenter. Ces 9 hiérarchies qui sont les cœurs angéliques, ce que l'Église appelle les cœurs angéliques, ce que les kabbalistes aussi nomment et décrivent de la même manière, ce sont des messagers à différents taux vibratoires qui correspondent aux différentes planètes du système solaire. Et c'est là que c'est intéressant. Alors, c'est assez juste, si on veut, qu'il existe un rapport entre les messagers de l'invisible et les planètes. C'est-à-dire que les planètes ne sont pas, comme on le croit normalement en astronomie moderne, des masses inertes, minérales, qui sont comme ça errantes, parce qu'une planète, ça veut dire corps errant. Hein? Bon, on sait bien qu'ils ne sont pas errantes, mais qui ont des cycles, qui ont des trajectoires précises. Mais ce n'est pas des masses minérales qui ont une trajectoire comme ça, qui tournerait autour du Soleil, le Soleil lui-même baignant dans un univers extraordinaire, mais plutôt sont le corps d'intelligence, d'entité, d'ange, hein, qui sont rendus à un certain degré d'évolution. Il faut donc faire une distinction qui, malheureusement, doit nécessairement être faite entre deux choses. Entre le ciel profane et le ciel sacré. Autrement dit, les anges comblent la lacune, si vous voulez, de la science qu'on appelle le hasard. Alors, lorsqu'on veut travailler au niveau de l'éther, c'est les anges que l'on contacte. Lorsqu'on veut travailler au niveau de la matière astrale, c'est nos émotions, c'est les archanges qu'on contacte. Lorsqu'on veut travailler au niveau de la matière mentale, ce sont les archontes ou les éons que l'on contacte. Et c'est pourquoi dans l'Église, par exemple, ou dans la magie en général, lorsqu'un individu veut créer un véhicule, parce que pour qu'une énergie puisse se manifester, il faut un véhicule. Lorsqu'il veut qu'il y ait une énergie qui se manifeste sur le plan astral, alors il va contacter les archanges, qui sont les spécialistes de l'astral. Lorsqu'il veut qu'une énergie se manifeste sur le plan vital, c'est-à-dire qu'il veut apporter une guérison, qu'il veut apporter une croissance supérieure d'une plante, d'un animal, d'un homme, ou ainsi de suite, il va communiquer avec les forces angéliques, qui sont les spécialistes de la matière éthérique. Et un jour, on fera appel à nous. Et on nous appellera au fin fond de la galaxie en nous disant, écoutez, on a besoin de spécialistes du plan matériel. Vous avez fait des ordinateurs, vous avez fait des objets matériels fantastiques, maintenant, on a besoin de cela. C'est ce qu'on a fait lorsqu'on a voulu incarner la conscience christique. Le Christ n'avait pas de corps mental, astral, éthérique et physique. Qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé aux archontes de lui créer un beau corps mental. On a demandé aux archanges de lui créer un corps astral fantastique. On a demandé aux anges de lui créer un corps physique et un corps éthérique, surtout éthérique, demain, par répercussion physique, fantastique. Ça a donné le Christ, ça a permis l'incarnation du Christ. Lorsque le prêtre veut incarner le Christ dans le vin et le pain, qu'est-ce qu'il fait? Il invoque les archontes pour créer un canal mental, il invoque les archanges pour créer un canal astral, les anges pour créer un canal éthérique, et puis lui, par le geste sur le plan matériel, permet la descente. Évidemment, il invoque d'autres puissances supérieures qui créent un canal causal et un canal supramental. Bon, alors, constamment dans une action quelconque, lorsqu'on veut agir sur un certain plan, c'est en contact avec ces agents-là, ces messagers, qu'il faut le faire. Et ce n'est plus seulement un contact d'instruction théorique, hein, mais c'est un rapport de collaboration réelle avec ces entités. Pour qu'éventuellement, et je terminerai là-dessus, pour qu'éventuellement l'homme puisse prendre sa véritable place dans l'univers comme un roi de la création et puisse s'intégrer dans la hiérarchie. Mais l'homme est-il prêt, c'est la question que je vous pose, à vivre dans un rapport hiérarchique? Nous qui sommes démocratiques à l'extrême, qui ne voulons pas avoir de plus haut gradé que soit au-dessus de nous, hein, est-ce que nous sommes capables de prendre notre place dans l'univers? Voilà ce que les Grecs demandaient à l'homme. Prenez votre place, réalisez votre forme, disait-il, et vous obtiendrez le bonheur. C'est-à-dire, prenez votre place. Les anges sont à leur place, les archanges sont à leur place, les éons sont à leur place. L'homme doit aussi être à sa place. Et lorsqu'il sera à sa place, l'échelle totale sera réalisée entre l'incréé et le plan matériel, la fusion, hein, le baiser nuptial sera réalisé et la matière se réveillera. La matière se réveillera de ses 100 années de sommeil, comme la Belle au bois dormant, et le prince charmant, hein, qui opérera cela, ce sera l'homme. Et lorsque l'homme donnera ce baiser nuptial à la planète, eh bien, la planète s'éveillera d'une vie nouvelle dont on n'a pas d'idée encore, et on entrera dans une nouvelle dimension de l'évolution de l'homme, qui est la dimension sacrée, parce qu'on aura appris à se placer exactement là où on va, à l'intérieur de la hiérarchie céleste, puisque nous serons à partir de ce moment-là des êtres célestes.